Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef Voilà sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Excusez-moi cette voix bréchée, c'est Selma à l'appareil, vous écoutez les exploits du chef, ce n'est pas ni la voix de Manu, ni la voix de Philippe, une émission haute en couleur aujourd'hui, aux couleurs de l'Afrique. Bonjour, bonjour Manu.
Bonjour Selma, merci d'avoir démarré l'émission pendant que j'étais au téléphone.
Je m'excusais justement, nos invités africains arrivent au fur et à mesure. Il y a un petit peu de circulation.
Ils arrivent à l'africaine.
Exactement. Donc avec un grand plaisir, je te lègue l'antenne, cher Manu.
Oui, alors bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, donc une émission dédiée à la cuisine africaine. Alors, la cuisine africaine, c'est quoi ? C'est plutôt des cuisines africaines. On vous l'avait dit pour la cuisine chinoise. Il n'y a pas une cuisine chinoise, mais des cuisines chinoises en fonction des régions. L'Afrique, c'est exactement la même chose. Alors aujourd'hui, on parlera de l'Afrique. De l'Afrique noire, puisque souvent on vous parle de la cuisine d'Afrique du Nord, vous êtes habitué. Là aujourd'hui on sera sur des cuisines d'Afrique noire, donc tout ce qui n'est pas effectivement cuisine du Maghreb et cuisine arabe.
C'est complètement différent.
Voilà, ce sont des, comme le dit Selma, ce sont des cuisines assez différentes, avec des ingrédients différents, des façons de, des techniques de cuisson différentes, voilà, c'est vraiment une cuisine très très riche, très intéressante. Alors, dans l'émission, s'ils arrivent, hein, parce que là, on est sûr de rien, on recevra Alexandre Bellaola du restaurant Rio dos Camaros à Montreuil, et également le restaurant Moussa l'Africain, qui vient d'ouvrir dans le quartier des Halles à Paris. Nous devrions recevoir également, elle est en route, mais c'est vrai qu'il y a des embouteillages, il y a de la pluie, c'est compliqué, Marie-Noël, hein, du restaurant Babylon Bis, un restaurant africain très branché et très people à Paris dans le deuxième arrondissement. Et puis également, alors ça bon, il est sur le salon du livre, il devrait arriver assez rapidement dans la foulée, mais on ne sait pas quand, normalement, comme on m'a beaucoup dit, Christian Abégan, qui est un cuisinier et auteur qui devrait nous rejoindre pour parler de son livre récemment sorti aux éditions Michel Lafon. Voilà, alors si vous avez des questions sur la cuisine africaine, en attendant, appelez-nous au 01 53 48 3000 pour poser vos questions à nos invités ou nous poser vos questions à Selma et à moi-même. Quels sont les plats emblématiques de la cuisine africaine? Comment cuisine-t-on à l'africaine? Quels sont les ingrédients stars de cette cuisine, les techniques de cuisson? Posez-nous vos questions, on essaiera de vous répondre. Voilà. Alors, nous sommes toujours en attente de nos invités. Je fais pour la première fois de ma vie, ce qui s'appelle meublé. Donc, c'est une émission sur la cuisine africaine. Et nous avons un appel, apparemment. Valentin, nous avons Mohamed d'Ivry qui nous appelle.
Oui, bonjour.
Bonjour Mohamed.
Oui, Mohamed d'Ivry. Alors, je suis maghrébin, donc, mais ça veut pas dire que je suis pas un dégusteur, donc j'aimerais bien déguster. Et j'ai dégusté pas mal de plats hors que Maghreb.
D'accord.
Alors, ce que j'ai remarqué sur la cuisine africaine, donc l'ingrédient principal, c'est le riz.
Oui, effectivement, oui, ça c'est vrai que c'est un ingrédient qu'on retrouve dans l'intégralité de la cuisine africaine. C'est effectivement le riz, oui.
Le riz. Alors, le deuxième ingrédient principal, c'est les oignons.
Oui, alors les oignons, ça les oignons, on en trouve un petit peu dans toutes les cuisines du monde, Mohamed.
Ah oui, mais la proportion en oignons, vraiment, elle est très importante. Nous, dans les plats maghrébins, par exemple, on met un oignon minimum. Par contre, par exemple, si je compare le plat sénégalais, on met par exemple 1 kg d'olive.
D'accord, alors là vous me parlez d'oignons, d'olives, vous me parlez quoi, d'un yassa, c'est ça?
Non, le tchèboudienne.
Ah, le tchèboudienne. Alors.
Le tchèboudienne.
Alors, on va en parler justement avec, notre ami Alexandre Belaola. Alors, Alexandre Belaola, je vous le présente en deux mots. C'est un peu le, quoi, le Zidane de la cuisine africaine.
Ah, c'est trop dire.
Bah, vous voyez, il a un rire, Alexandre, avec lequel il peut marquer des buts, hein.
On sait qu'il est là.
Voilà, absolument. Oui. Donc, Alexandre Belaola, donc chef cuisinier, restaurateur, le restaurant Rio dos Camaros à Montreuil.
Oui.
Et Moussa l'Africain, donc qui existait dans le 19e et qui avait fermé et qui vient de rouvrir là dans les Halles à Paris.
Oui.
Où je suis passé hier soir. Il y a une très belle ambiance, un endroit très sympathique. Alors notre auditeur Mohamed d'Ivry nous dit donc dans la cuisine africaine, ingrédient un aliment commun répandu, c'est le riz, ça effectivement, mais aussi donc les oignons, les olives. Quels sont les, Alexandre, les ingrédients les plus répandus dans la cuisine africaine?
Bon, alors moi je pense que la première chose c'est de cadrer ce qu'on appelle la cuisine africaine, parce que quand on parle de cuisine africaine, on a l'impression que c'est un pays, ce n'est qu'une petite chose. Non, l'Afrique c'est un continent.
On est d'accord, il y a des cuisines africaines.
Oui, l'Afrique c'est des régions, l'Afrique c'est des zones climatiques, l'Afrique c'est des pays. Voilà. Bon, maintenant, quand on va parler des produits, c'est vrai que aucune cuisine n'est endogène. Je vais expliquer ce que cela veut dire, endogène. C'est-à-dire qu'aucune cuisine ne s'est développée toute seule avec ses produits. Les produits ont voyagé dans le monde entier. Nous connaissons la route des épices qui nous vient tout simplement des Indes, qui nous vient d'Asie, qui nous vient un peu partout, et ces épices ont voyagé et se sont propagées dans le monde entier. Le continent africain est un continent qui naturellement se divise en deux grandes parties. La D'accord. première partie, c'est la partie nord, qui est celle qu'on appelle l'Afrique blanche, ou qu'on appelle aussi le Maghreb. Et on a la partie subsaharienne, qu'on appelle l'Afrique noire, qui aussi a une entité culinaire complètement différente.
Voilà, et même dans l'Afrique noire, il y a des diversités gastronomiques énormes.
Ah ben, on va rentrer maintenant, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va se rendre compte qu'il y a des subdivisions, qui sont des subdivisions qui peuvent être linguistiques, et qu'il y a des subdivisions qui peuvent être aussi géographiques.
D'accord.
Alors, maintenant, le Maghreb, moi, pour fermer cette partie, le Maghreb, je vais vous dire tout de suite que le Maghreb, il est tourné vers la Méditerranée. Et la cuisine méditerranéenne est une cuisine millénaire. Est une cuisine dans laquelle, et si on ouvre cette partie, on va s'y perdre. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, et je pense qu'on va essayer d'en parler de plus en plus, c'est l'Afrique subsaharienne.
Oui, alors, justement, c'est ce que je disais à nos auditeurs juste avant votre arrivée, c'est qu'aujourd'hui, on a évidemment à Beurre FM souvent l'habitude de parler de la cuisine du Maghreb, mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur toute la cuisine de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a déjà beaucoup à dire. Mohamed, est-ce que vous avez une question en particulier à poser à notre spécialiste Alexandre Belaola?
Oui. Alors, justement, moi, je suis intéressé par la cuisine sénégalaise, et parce que j'avais un ami sénégalais, donc une fois il m'a invité pour moi du tchèboudienne,
oui.
Oui, après. Donc il m'a dit, il y a un autre plat, je t'inviterai à manger la prochaine fois le plat, le yassa.
Ah, le poulet yassa, enfin le yassa, qui est pas forcément de poulet d'ailleurs, Alexandre, hein. Le bon, yassa, c'est une sauce en fait, le yassa, c'est ça?
Ce qui est très intéressant déjà, c'est que là vous m'avez parlé de la cuisine sénégalaise, donc on pose notre valise dans un pays, le Sénégal.
On s'arrête à Dakar, à l'île de Gorée, là, quelques instants.
Le Sénégal, ce que j'ai envie de dire, le Sénégal est quand même parmi les premiers pays qui portent les cuisines d'Afrique noire, c'est-à-dire qui a véhiculé un peu l'Afrique noire. Donc là, vous me parlez du tchèboudienne. La traduction littérale de tchèboudienne veut dire riz au poisson.
D'accord. Donc c'est pas donc ok, parce que j'ai déjà vu Alexandre des tchèboudiennes avec de la viande ou des choses comme ça. Ça veut dire que c'est une transposition.
C'est alors avec
une transposition de la recette de base. Quoi.
Oui, le tchèboudienne. Le tchèboudienne veut dire riz au poisson. Tchèbouyap, ça veut dire riz à la viande. Dienne, c'est le poisson. Okay. Tiep, c'est le riz.
Et on fait ça avec le poisson, normalement on fait ça avec le tiof.
Alors le tiof c'est un mérou. Le mérou qu'on trouve aussi et effectivement dans la au niveau de la Méditerranée. Quand j'étais en Tunisie, j'ai trouvé des très bons tiof. Alors le tiof est le poisson par excellence pour faire le tiboudienne, c'est-à-dire du riz au poisson. Alors le tiboudienne, attention, pour moi, le tiboudienne, il est tracé, c'est un plat qui est né dans la deuxième moitié du 19e siècle.
C'est une recette récente, c'est pas une recette hyper traditionnelle, c'est une recette récente.
C'était une recette urbaine, c'est une recette de rencontre entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Donc l'Asie nous apporte le riz, l'Europe nous apporte le concentré de tomates et l'Afrique a fait pratiquement le mélange. Et la particularité du tiboudienne, c'est qu'il y a un mollusque faisandé qu'on appelle le yette.
Le yette, d'accord.
Le yette
qui ressemble à quoi comme mollusque dans... C'est quoi? C'est une clame? C'est une...
On dirait une tortue. On dirait une tortue de mer. Donc, effectivement, c'est ce mollusque qui apporte le parfum et qui va faire la particularité du tiboudienne.
D'accord.
Voilà. Donc le riz au poisson,
c'est ce qui donne ce goût un peu fumé. Moi, je pensais que ça venait du tiof. Et en fait, non, ça vient de ce mollusque.
C'est le mollusque.
D'accord.
C'est le mollusque qui apporte ce parfum particularité. C'est-à-dire qu'on a les viandes faisandées, on les a retrouvées assez souvent dans des cuisines traditionnelles françaises, hein. Effectivement. Bon, maintenant, pour des raisons de traçabilité et autres, ce sont des produits qui n'ont pas forcément bonne presse, mais ce sont des produits qui font la particularité de la cuisine africaine, effectivement. Surtout de ce plat du tiboudienne.
D'accord. Alors Mohamed, est-ce que ça répond à votre question, cher auditeur?
J'avais toujours compris que le tiboudienne, c'était à base de viande.
Ah bah, vous voyez, donc c'est tiboudiap, c'est ça?
Alors, le tiboudiap.
Tiboudiap.
Alors, maintenant, dans le tiboudienne, il y a plusieurs façons de le cuisiner, hein. Il y a le tiboudienne rouge, c'est-à-dire, c'est celui dont je vous ai parlé, qui est à la base, vraiment, de la cuisine, c'est-à-dire le tiboudienne rouge, et maintenant, on a le tiep blanc. Le tiep blanc qu'on peut aussi faire, vous voyez, on peut le faire avec du poulet, on peut le faire avec de l'agneau, on peut le faire avec toutes les viandes que vous voulez. Et effectivement, maintenant, ce n'est qu'un process de travail, une manière de travailler. C'est-à-dire que on dit très souvent le tiboudienne, c'est la recette à une seule marmite. C'est-à-dire que tous les produits cuisent dans une seule.
C'est le chaudron, quoi. Voilà. C'est le pot-au-feu à la française. Tout va dans le même plat.
On commence par la base aromatique. On cuit le poisson, on le retire, on le réserve. On cuit les légumes, on les réserve. Et on termine, on retire une petite sauce qui va venir napper à la fin de la cuisson. C'est-à-dire quand on va partager le plat. C'est-à-dire on la retire et on termine la cuisson avec le riz. C'est-à-dire le riz vient cuire à la fin. Et il s'imbibe de tous les sucres que tous les produits qui sont passés ont laissés. Donc, ce n'est d'accord. Qu'une question de manipulation, mais c'est aussi, j'ai envie de vous dire, pensez à une paella. Vous voyez, quand vous faites une paella...
Ah, c'est une cuisson par absorption, un peu, voilà.
Effectivement, mais sauf que la particularité du riz, c'est que quand il cuit, il ne colle pas. C'est pas un risotto.
Et c'est pas en clobens, hein. Il ne colle jamais, mais c'est pas en clobens, hein.
C'est pas en clobens. Mais c'est pas. Là, encore, on rentre dans quelque chose de très difficile parce que c'est des brisures de riz.
Oui.
Et les brisures de riz lâchent très vite leur amidon. Donc, il y a une manipulation et il y a une technique de cuisson de riz qui fait en sorte que quand vous le mangez à la fin, vous pouvez manger grain par grain.
Voilà Mohamed, merci de nous avoir appelé. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le tiboudienne. J'espère que ça a répondu à votre question. Alors Alexandre, vous parliez de riz, de brisure de riz. Alors on entend souvent parler de riz cassé une fois, deux fois, trois fois. De quoi s'agit-il? Alors, et pourquoi on casse le riz, s'il vous plaît?
Casser le riz, c'est trop dire. C'est que pendant le décortiquage, effectivement, il y a des malheureux. Pendant le décortiquage, il y a des grains qui malheureusement subissent sont brutalisés, ils se cassent. Ceux-là, ils sont récupérés dans un premier filtre. C'est le riz cassé une fois. Et puis il y a un deuxième tamis qui effectivement récupère du riz cassé deux fois. On va même jusqu'à trois fois.
D'accord. Donc on le casse pas le riz. C'est la résultante du triage de
la manipulation.
Ah bah oui, non mais attendez, on est là pour apprendre. Hein. Quand moi j'ai toujours pensé que le riz cassé une fois, deux fois, trois fois, on cassait le riz peut-être avec un pilon, je ne sais pas, pour le casser, pour qu'à la cuisson il prenne plus de saveur, plus de bouillon, je ne sais pas. Voilà, mais c'est intéressant de savoir ça.
Alors c'est que beaucoup de gens ne savent pas. On a l'impression que les sources des riz dans le monde ne sont qu'asiatiques. Non, il y a deux sources des riz dans le monde. Il y a une asiatique et une africaine.
Africaine, oui. Importante.
Et celle qui a été le plus développée sur le plan de la manipulation, c'est la source asiatique.
Très bien. Donc, du coup, on a bien fait de faire une spéciale cuisine africaine. Comme ça, aujourd'hui, on va s'étaler en long et en large pour parler des spécialités et du riz africain qu'on a découvert lors de la préparation de cette émission, qui a beaucoup de spécificités différentes du riz japonais.
Voilà.
On en parlera tout à l'heure.
Pardon. Oui. On en parle après la pub avec Selma qui va tout nous dire un petit peu sur la cuisine africaine parce qu'elle a beaucoup bossé, Selma.
Alexandre a très bien parlé de ça déjà et on en reparlera.
Les exploits du chef revient dans un instant. Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef voilà. Sur Beurre FM.
De retour en direct sur l'antenne de Beurre FM. Entre temps, nous a rejoint dans les studios Marie-Noëlle Mansuela, qui est manager des relations publiques et de la communication du restaurant Babylon Bis, que moi j'ai connu sous le nom de Babylone il y a 30 ans déjà. Marie-Noëlle.
33 ans.
33 ans.
Ça vous rejeunit pas, cela, Manu, hein?
Ouais, merci de le préciser, Selma.
Effectivement, on est plus jeune. Donc, l'ouverture s'est faite au mois de juin 1985.
D'accord. Et donc, un restaurant qui avait été créé par une très vieille connaissance, un ami, je pourrais dire, Faz, dont j'ai appris le décès, effectivement, il n'y a pas très longtemps. Donc, j'aimerais qu'on lui dédie cette émission. Et puis on va parler un petit peu de son travail pendant tout ce temps-là.
Pendant ces 33 ans de vie.
Et voilà, parce que c'est un endroit très très particulier, le Babylone. On va en parler tout à l'heure. Mais pour revenir aux grandes cuisines et aux grandes gastronomies des différentes nations africaines, Selma, vous avez un petit peu enquêté, investigué. Alors de façon synthétique, parce que c'est un tellement grand continent gastronomique, l'Afrique, c'était un peu compliqué de rentrer trop dans le détail. Donc dites-nous un petit peu ça, Selma. Qu'est-ce qu'on trouve comme plat emblématique dans chaque grand pays d'Afrique?
Alors, c'est vrai que c'était un petit peu difficile de recenser tous les plats les plus populaires d'Afrique. Mais si je vous dis le PDG, vous allez me dire quoi, cher Manu?
Ah, c'est le poulet avec le poulet frit avec de la banane, c'est ça?
Exactement. Le PDG, c'est le poulet directeur général.
Voilà, c'est le plat national du Cameroun.
Exactement. C'est un plat très, très connu camerounais. C'est un ragoût de poulet qui est frit et qui est servi avec un cocktail de frites de plantain. Il y a aussi des légumes, à savoir des carottes, des poivrons, des haricots verts et diverses aromates. Donc c'est une recette très très simple et qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients exotiques. Pourquoi
Selma, ça c'est, si ma mémoire est bonne, ça c'est un plat qui est pas un plat, c'est un plat, c'est aujourd'hui le plat qui peut-être se mange le plus au Cameroun, parce qu'on mange ça en mode, populaire, c'est en mode street food, mais pourtant c'est un plat récent, je crois.
Exactement. Donc c'est un plat qui date juste des années 80, et on disait avant le PDG, parce que dans le temps, c'était un plat qui était dédié à des personnes d'une certaine importance sociale.
D'accord, un plat que mangeaient les élites un peu.
Exactement, mais heureusement que depuis, ça s'est démocratisé. Maintenant, ce joli plat très très bon, très savoureux et complètement complètement démocratisé, excusez-moi, d'autant plus que les ingrédients rentrant dans sa composition, enfin j'y arrive, sont accessibles à tous.
D'accord, donc aujourd'hui tout le monde est PDG au Cameroun,
hein,
c'est ça?
Exactement, tout le monde est PDG, tout le monde peut savourer ce plat.
Alexandre, c'est un plat que vous faites dans vos restaurants, vous?
Oui, alors effectivement, comme Selma l'a bien dit, il a si très bien présenté, le poulet DG effectivement est un plat des années 80, qui est né dans les gargotes. Donc c'est un plat qui personne ne peut se l'approprier malgré le fait qu'il soit très récent. Et il a eu une ascension très 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 fulgurante puisqu'il est devenu un plat national en si peu de temps. Donc le poulet DG, en fait, au départ, c'est-à-dire cette élite, les jeunes hommes d'affaires qui voulaient effectivement manger quelque chose de léger, voulaient manger des fricassés de poulet braisés et des bananes plantains. D'accord. Et à, auquel on pourrait rajouter quelques légumes du potager, c'est-à-dire des haricots et des carottes que tout le monde n'avait pas l'habitude de manger. Ça faisait un peu chic.
Effectivement. Oui, c'est un plat opportuniste, c'est une recette opportuniste, un
vraiment
petit peu.
Opportuniste,
c'est,
ouais. Il fallait vous briser un poulet, vous le couper en fricassée, des bananes plantains, vous les coupez en rondelles, vous les posez sur un grill, vous les grillez, et puis vous faites sauter à côté des carottes et des carottes coupées en poivrons, et en pâtons en petits dés, et vous pouvez même rajouter des poivrons, et effectivement, et des haricots, vous mélangez, et vous rassemblez l'ensemble. C'est tout ça, attention, est très très bien aromatisé et très bien avec des épices.
Vous en parlez tellement bien que j'aimerais bien voir un plat comme ça de PDG devant moi.
Alors,
c'est incroyable.
Les meilleures épices pour cela sont le jansan. Oui. Et le pebe, qui sont la reine des épices dans la cuisine d'Afrique noire.
D'accord, qui ne sont pas des épices très connues en plus.
Non, elles ne sont pas connues. En fait, ce sont des arbres millénaires. Attention, ces arbres ne sont pas plantés, ne sont pas cultivés, ne sont pas encore rentrés dans le potager. C'est vraiment encore sauvage. Et je me dis maintenant...
Ils rentrent dans la famille des écorces, en fait.
Ah oui, mais il y a des écorces, il y a effectivement... C'est-à-dire, mais ce sont des choses qui, effectivement... Ce sont des choses qui, effectivement, avec la grande consommation qui est en train de se faire, forcément, vont rentrer dans le potager comme une autre herbe qu'on aura le temps d'en parler, que l'ondolet.
Très bien. Donc, alors, après le Cameroun.
Selma, on va dans quel pays maintenant?
Là, on va faire un petit saut au Sénégal pour parler un petit peu du Yassa.
Grande nation gastronomique, le Sénégal.
Exactement. Donc, le Yassa, l'origine du mot vient du créole, ce qui veut dire frire. Donc, comme je disais, c'est un plat sénégalais à base d'oignons frits et de riz, qui peut être accompagné de viande marinée, ou pas. Donc, parce qu'on peut très bien faire le yassa viande, comme je disais, ou le yassa poulet.
Voilà, le yassa poulet, je crois que c'est ce qu'il y a de plus répandu, mais on le fait aussi avec du poisson, du bœuf.
Ou enfin, avec du veau.
À la base, le yassa...
Au Babylone, nous, on a une autre déclinaison, puisque Faz a créé autre chose. Hein. Il a créé le fameux yassa avec donc le poulet fumé et le veau.
D'accord.
Je vais tous les secrets de la recette. Mais bon, c'est encore une autre déclinaison du fameux yassa.
C'est un travail de recherche.
Le yassa, c'est la sauce en quelque sorte.
C'est la sauce elle-même. Je pars du principe de l'oignon frit, d'accord, sous cette base-là. Et ensuite, bon, après, on peut élaborer comme on veut. Ça va dépendre aussi des moyens que l'on a.
Oignon, citron. Alors, dans certaines recettes, on trouve des olives. Alors, olives dans le yassa.
Ça va dépendre là encore des papilles. Ça va dépendre de la personne.
Avec le poulet, il y a du citron vert, de la moutarde, c'est ça?
Et de la moutarde, tout à fait.
D'accord. Et le yassa au veau, c'est une déclinaison, c'est un travail de recherche sur la recette.
Il était en perpétuel recommencement, renouvellement, effectivement, de ce qu'il pouvait proposer sous sa carte. Hein.
Oui.
Donc il faisait des associations parfois. C'est de là que naît l'art justement culinaire, c'est qu'on est amené effectivement à créer des choses. Et lui, potentiellement, ce qu'il faisait, c'était aujourd'hui, il avait décidé, bon, moi, je vais descendre en cuisine et je vais essayer telle chose. Donc, il descendait en cuisine, on le voyait pas pendant quelques heures. Il revenait.
Donc là, on parle de Faz.
Du Babylone, le créateur du Babylone.
Émission,
Et il revenait avec un plat et puis il disait, bon, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et là, tout le monde goûtait et puis on disait, si on était pour ou contre, qu'est-ce qu'on fait? Mais il dit, de toutes les façons, ça va être sur la prochaine carte. Et c'est comme ça que ça se lançait.
Alors, Faz, qui était d'origine de quel pays d'Afrique, Marie-Noël?
Il était du Bénin.
Du Bénin, oui, d'accord. Où on mange le akobu d'Essi, c'est ça,
Alexandre? Au départ, on faisait l'akobu aussi sur la carte.
Bien.
Et après, effectivement, chaque année, par la création, par effectivement toutes les personnalités qu'on a eu à recevoir, il a fallu effectivement amener du renouveau.
Oui.
Donc, chaque année, on propose autre chose, toujours sur la base de la cuisine africaine et la cuisine créole.
Okay.
Peut-être c'est important de donner cette idée. C'est le renouveau dans la cuisine africaine. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. Mais j'aimerais bien finir avec une autre spécialité africaine. On peut pas s'en passer. C'est la loco. La fameuse banane plantain frite. On a beau dire que elle est excellente au four ou elle est cuite à l'eau ou cuite à la vapeur, mais la meilleure c'est la banane plantain frite. Il faut assumer les calories. Il faut assumer
faut pas avoir peur du condiraton.
Voilà. Exactement.
Moi ça va, c'est déjà fait. Moi c'est déjà assumé, consommer les calories. Donc allez-y.
Donc
Selma,
la loco, Alexandre, tout va bien. Hein.
Bon. Donc la loco, c'est très facile à préparer. C'est la banane plantain. On en reparlera tout à l'heure de ce fameux légume qui est physiquement, qui ressemble à la banane douce, mais qui n'a rien à voir. C'est une autre manière de le préparer, c'est une autre manière de le déguster. Donc, la loco, on peut pas parler de la cuisine africaine sans passer par ces fameuses bananes plantains frites. Ensuite, il y a le mafé. J'ai retrouvé le mafé toujours au Sénégal, et alors, un petit peu au Mali.
Le mafé, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est un plat presque panafricain.
Exactement. Je crois que c'est l'un des plats qui a le plus muté dans le temps.
Oui.
Avec le déplacement des peuplades, c'est celui qui a le plus voyagé.
Oui.
Il me semble, hein, si je ne me trompe.
Oh oui, non, en fait, vous savez, c'est que ce que moi j'ai l'habitude de dire dans mes écrits, effectivement, le mafé, la sauce d'arachide n'a de nom mafé, n'a d'africain que son nom, mais c'est un plat qu'on est capable de réaliser aux quatre coins de la planète. Mmh. Et ce plat se compose tout simplement de trois éléments.
Oui, vous disiez dans l'un de vos livres, Alexandre, qu'aujourd'hui, certains plats africains n'ont plus besoin de produits importés ou autres, on peut les faire avec les produits du supermarché.
Bah alors, les deux plats qu'on vient de citer, qu'on est en train de...
Oui, le yassa et le mafé,
qui sont vraiment les plats, j'ai envie de dire, phares, ou bien les grands classiques, qu'on en veuille ou pas. C'est-à-dire, il y a des références de base sur lesquelles on ne peut pas
faire l'impasse.
Donc, le mafé, puisqu'on parlait du mafé, c'est quoi? C'est le beurre de cacahuète.
Une sauce d'arachide, c'est ça?
Oui, tout à fait. D'un côté, on a la base aromatique, qui est la sauce tomate, et puis, on a la protéine que vous allez ajouter. Mmh. Et dans la protéine peut être soit du poisson, soit du poulet, soit tout ce que vous voulez, mais, commencez par votre base aromatique que tout le monde sait faire, vous la faites. À côté, vous avez votre beurre de cacahuète que vous allez délayer. Vous l'ajoutez dans votre base aromatique. Vous détendez le tout avec un bouillon de votre choix.
Oui, on fait cuire les épices comme dans les cuisines indiennes, indonésiennes. On fait cuire les épices d'abord et on les délaye après.
Oui, et vous
on ne met pas les épices dans le bouillon. Voilà.
Et vous laissez mitonner le tout doucement et vous introduisez votre protéine, si elle est fragile au dernier moment, si c'est du poisson, vous n'allez pas l'introduire en début de cuisson, vous allez l'introduire en fin de cuisson, et puis vous pouvez maintenant aromatiser le tout, agrémenter le tout, soit avec des légumes, soit avec des carottes, soit avec des choux, soit avec des courgettes, soit avec des pois chiches, vous avez une bonne sauce qui se mange, qui peut s'accompagner avec du riz, avec des pommes de terre, avec des choux-fleurs, avec...
Oui, j'ai vu avec des carottes aussi.
Avec des patates douces.
Avec des patates douces. Tout ce que vous voulez.
C'est un peu le pot-au-feu. C'est un peu le pot-au-feu de l'Afrique de l'Ouest. On met un petit peu ce qu'on veut dedans. Mais ce qu'on trouve dans le jardin, c'est un plat délicieux.
Alors, parce que la sauce d'arachide, son nom véhiculaire, parce qu'il faut dire les choses simplement, qui vient du Sénégal, effectivement, vient du... L'arachide, c'est le tigadégué. Effectivement, mafé, c'est sauce. Effectivement, la notion de sauce, c'est-à-dire, c'est la même chose qu'on va retrouver au Gabon où on va dire la mwambe. Mwambe, ça veut dire sauce.
D'accord.
Au Cameroun, on va dire mfian. Vous voyez, donc, en fonction de chaque pays, la notion de sauce prend une appellation qui est complètement différente. Cela ne veut pas dire que le produit de base, il a changé. Non. Le produit de base qui est l'arachide, il est tout simplement présent dans toutes les cuisines africaines.
Dans l'un de vos livres, Alexandre, vous disiez qu'il y a des plats qu'on retrouve dans pratiquement tous les pays d'Afrique, sauf qu'on les cuisine différemment selon le pays.
Alors,
ça c'est intéressant comme.
Il y a une petite touche. Alors, par exemple, le mafé en Afrique de l'Ouest, le mafé au Mali et au Sénégal, on l'aime. La sauce beaucoup plus onctueuse. En Afrique centrale, la sauce d'arachide,
elle est
beaucoup plus fluide.
C'est un bouillon.
Et attention, il n'y a pas, l'Afrique centrale n'utilise pas le concentré de tomate tel qu'on le retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest.
Donc là, la sauce est plus liquide.
Ah, elle est beaucoup plus liquide, elle est même blanche.
Ah, carrément.
Là, on voit beaucoup plus.
Ah, d'accord. L'arachide. Elle n'est pas orangée.
Et là, si vous permettez, là, je vais finir avec un dernier plat parce qu'en fait, on ne pourra pas s'arrêter de parler, à savoir la chiquée. Donc c'est un plat complètement ivoirien, c'est un plat traditionnel ivoirien qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc il est à base de manioc. Ça a un peu l'apparence du couscous, le manioc, mais avec un goût un peu plus acide. Le plat s'accompagne de viande ou de poisson avec des légumes et une sauce. Donc là, je fais un petit coucou à mon fils Lucini qui m'a fait découvrir ce plat ivoirien. Voilà. Là, je fais vraiment un petit tour avec les plats phares. La liste est très très longue. Comme disait tout à l'heure Marie-Noël, on peut rester des heures et des heures à parler de la cuisine africaine.
D'accord. Bon, après la pause, on reviendra quelques secondes sur la tiéké avant de poursuivre notre programme. À tout à l'heure.
Les exploits du chef revient dans un instant. Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef voilà. Chef voilà. Sur Beurre FM.
Sur Beurre FM. Beurre FM. De retour dans les exploits du chef avec nos invités Alexandre Bellaola des restaurants Rio dos Camaros et Moussa l'Africain, et on parlera tout à l'heure de l'origine de votre du nom de votre restaurant Rio dos Camaros parce qu'il y a une histoire intéressante derrière, et avec Marie-Noël du restaurant Babylon Bis. Alors le Babylon Bis, donc on parlait de ce restaurant qui a été créé dans les années 80 par Faz, malheureusement récemment disparu, mais c'est alors le Babylon, c'est pas un restaurant qui a besoin de... C'est pas un restaurant du guide Michelin. Babylone, il n'y a pas besoin de lui mettre des étoiles, parce que les stars, elles sont dans la salle souvent là-bas. Hein.
On les a déjà, les étoiles, en fait, hein, par effectivement le public qu'on accueille au quotidien. On n'a pas besoin vraiment de ça, quoi. C'est vraiment, tout est basé sur ce qu'on peut proposer à la clientèle.
Voilà, si je dis Mick Jagger, Marvin Gaye, Lenny Kravitz, Stevie Wonder, Grace Jones, les Destiny Child, LTM, I Am, mais pas en même temps.
Non.
quelques Miss France, Rihanna, Gary Dourdan et tant d'autres. En fait, là, je parle juste de, je suis pas en train de dérouler le wouzou ou le bottin mondain. On parle juste de la clientèle du Babylone.
Tout à fait. La clientèle au quotidien. On n'est pas en train d'extrapoler. C'est vraiment, on travaille avec eux de manière, conceptuelle, comme vous voulez. Mais bon, on arrive effectivement à faire venir, des gens, à l'international. En ce moment, on est beaucoup axé sur le Japon, sur les pays asiatiques, la Chine, où on a eu de très très bons contacts.
Oui, alors la cuisine africaine plaît beaucoup aux populations chinoises, j'ai remarqué.
Thaïlandaises, chinoises, ouais. Et japonaises, donc voilà. Entre autres, en dehors des étoiles.
En dehors des stars qui sont dans la salle.
Et aussi, tout le monde, puisque la population française aussi, hein, on a des gens qui viennent du sud. Voilà.
Alors, toutes ces stars que j'ai citées, on les voit avec Faz et Chris, les deux créateurs de cet endroit sur les murs, en peau de zèbre.
Musée, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est comme un musée. Il y a beaucoup de photos sur les murs. Alors, l'entrée de ce restaurant, le Babylone, qui est rue Ticton, c'est une petite rue piétonne. Dans le deuxième arrondissement, pas très loin du métro Étienne Marcel, on a l'impression de rentrer dans une discothèque un peu. Hein. C'est une façade
fermée,
aveugle, noire. On sonne pour rentrer.
Tout à fait.
C'est peut-être aussi cette confidentialité, ce calme, cette tranquillité qui fait que la clientèle un petit peu people apprécie.
Et puis aussi la cuisine, la tradition, la culture, ce qu'on peut leur offrir qu'ils n'ont pas chez eux. Parce que quand ils viennent en France, effectivement, ils aiment bien se retrouver dans un endroit, effectivement, où ils vont être bien accueillis, ils vont manger, vraiment copieusement, puisque c'est le terme, hein, et aussi ils vont
trouver... Oui, la cuisine africaine, en général...
C'est copieux.
Entrée plat dessert...
Elle est généreuse.
Voilà. Entrée plat dessert, faut pas avoir mangé le midi, quoi.
Faut pas hésiter, on va au plat direct.
Déjà, voilà. Dans la structure du repas à l'africaine, il n'y a ni entrée ni
dessert. On va directement chez le service.
On mange des fruits éventuellement à la fin, mais...
C'est même pas, c'est le plat de résistance, parce que le plat de résistance est constitué de tous les éléments nutritifs dont on a besoin. Donc on n'a pas besoin d'apport de sucre derrière, on a besoin d'un peu d'eau. J'ai juste besoin d'un peu d'eau pour descendre tout ça.
Ou un peu de bissap.
Ou du jus de bissap, tout à fait.
Ok. Alors vous, vos restaurants, Alexandre, donc vous avez depuis quelques années déjà le restaurant Rio dos Camaros à Montreuil, qui est un peu votre maison mère, je veux dire votre navire amiral.
Et en fait, j'ai un peu débarqué dans la restauration de façon un peu naïve, parce que je faisais un constat, je me disais que c'est dommage qu'il n'y ait pas de restaurant africain.
Vous avez créé le restaurant que vous ne trouviez pas à Paris, en fait, oui. Parce qu'à la base vous êtes artiste, vous.
Moi, je suis de formation, j'ai fait le Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris, donc moi je suis comédien à la base, donc finalement je me dis j'avais beaucoup, il y a de cela une trentaine d'années, c'était difficile de faire notre métier de comédien parce que il y avait pas beaucoup de rôles, donc je me dis pour essayer de sécuriser, j'avais gagné un peu d'argent en faisant de la post-synchro, de l'animation dans des dessins animés et autres.
Et vous avez une bonne voix, vous êtes un bon client pour la synchro là.
donc ce qui fait que avec cette petite réserve, je me dis bon, on investit dans un restaurant, je veux faire travailler les autres, je vais gagner de l'argent rapidement.
Donc vous démarrez à Montreuil. Alors pourquoi Montreuil? Vous habitez là?
Non, mais c'est simplement une opportunité. On me dit, je voulais le faire à Paris.
Il y a un local. Et on y va.
Je me rends compte qu'à Paris c'était très cher par rapport au budget que j'avais. Un copain qui me dit, écoute, au lieu d'être à Paris, tu te mets de l'autre côté de Paris, c'est moins cher. Les prix sont divisés par 3. sinon deux. Bon, alors, j'arrive, donc, j'ai débarqué comme ça à Montreuil en 1994. Donc, en 94, j'arrive, je trouve ce lieu, dans une rue complètement paumée. Je fais une étude de marché dans le secteur, mais je vois qu'il y a du tertiaire. Je me dis, oui, ça va marcher. Et les gens me disent, mais t'es fou de te mettre dans cet endroit. Donc, je me mets dans cet endroit et j'ouvre.
Donc là, vous misez plus sur la clientèle du midi, en fait, quand vous arrivez, hein, c'est
moi,
ça?
Moi, c'était d'abord le midi.
Et vous dites le soir, si ça viendra, c'est du bonus, quoi.
Voilà. Le soir, j'ai dit, les Africains vont se déplacer, ils vont venir en masse. Donc, on ouvre le restaurant.
Oui, c'est vrai qu'il y a, alors ça c'est une chose qui m'a toujours choqué. Il y a très peu, par rapport à la population africaine ou d'origine africaine en France, il y a très peu de restaurants africains.
Bah, je vous mets au défi là tout de suite de me citer 5 noms de restaurants africains pareil.
Ah, j'ai peut-être y arriver. Alors,
mets au défi.
Bah, je vais citer les vôtres déjà.
Le Babylone,
Moussa l'Africain.
Oui.
Le Rio dos Camaros.
Il y en a déjà trois là.
Non, il n'est pas à Paris, il est à Montreuil.
Dans le dixième.
Alors, je vais dire
Vous avez une minute, hein. On est déjà 30.
Alors, le problème, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire, mais déjà, il y en a deux, rue Moret dans le 11e.
Non, mais je veux le nom.
Ah, non, c'est vrai, vous me posez une colle.
Si vous n'avez pas le nom, voilà, c'est clair. Ce sont des choses qui ne vous marquent pas.
Alors que les restaurants chinois, je vous en cite 40.
Oui. Alors, voilà. Oui. Ce sont des choses qui vous marquent. Et c'est très significatif pour la cuisine africaine.
C'est la faute à qui?
Et c'est pour cela d'un.
C'est la faute à qui?
C'est la faute à personne. On fait un constat.
D'accord.
Moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, la cuisine africaine, elle a besoin de soldats. Vous savez, il y a une différence entre soldat et général.
Donc vous êtes posé en mercenaire quelque part sur la cuisine africaine pour faire le soldat, justement, amener un petit peu cette cuisine à Paris qu'on devrait trouver à chaque coin de rue par rapport à l'importante population africaine ou d'origine africaine qu'on compte à Paris. Alors pourquoi est-ce que les Africains ou les gens d'origine africaine, est-ce que c'est pas dans leur culture de faire de la restauration? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve peu de restaurants africains à Paris?
Tout cela est dans.
Je vais juste intervenir là-dessus.
Marie-Noël.
La difficulté d'implantation. La difficulté d'un. Ensuite, c'est qu'on ne leur donne pas non plus la possibilité de pouvoir exprimer leur art, parce qu'il y a des gens qui ont des business plans, mais ils ne trouvent pas effectivement soit de mécènes, soit de financement, tout simplement. Parce que c'est devenu cher.
Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs configurations. C'est-à-dire, quand on a envie de faire quelque chose, je disais tout à l'heure la notion de soldat voulait dire que je pratique d'abord quelque chose parce que c'est structuré. Je pratique quelque chose et je me contente de le faire. Or, les Africains, tous sont des généraux. C'est-à-dire, ils arrivent, ils savent déjà tout faire, c'est facile. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé en 1995 quand je voulais créer mon restaurant. J'étais convaincu que c'était facile. La cuisine est
un métier. Oui, alors que la restauration, on le sait, c'est un des métiers les plus difficiles.
C'est un métier. Un métier qui a des codes, qui a des règles auxquelles il faut s'astreindre. Et donc, dès qu'on a compris comment ça fonctionne, maintenant on adapte notre cuisine à l'intérieur pour la pratiquer.
Et donc, de général autoproclamé, vous êtes devenu un bon soldat aujourd'hui.
Je suis
donc
un soldat aujourd'hui. Je suis tout. Je suis plongeur, je suis cuisinier, je suis chef, je suis directeur, je suis ingénieur, je suis tout ce que vous voulez, mais je suis toujours ramené à la fonction première et primaire qui est la pratique de la cuisine, c'est-à-dire le sol.
C'est important. Parce que la cuisine, c'est la base de tout. Et d'ailleurs, on remarque une chose, c'est que avec l'émigration à l'extérieur de l'Afrique, avec aussi l'esclavagisme qui a déporté beaucoup de populations africaines dans le monde entier, on s'aperçoit aussi quand même que la cuisine africaine, Elle a influencé la cuisine de beaucoup de pays. Enfin bon, quand on va à la Nouvelle-Orléans, aux Antilles, à Madagascar, la cuisine africaine, c'est une cuisine qui s'exporte aussi.
Je vais un peu aller à contre-courant. Non, elle n'a pas influencé. C'est-à-dire, c'est une cuisine qui est restée sous-jacente. C'est-à-dire, c'est une cuisine qui est méconnue. Elle est méconnue tout simplement parce que les gens ne peuvent pas, c'est-à-dire on descend là dans la rue, on demande à 10 personnes qu'est-ce que vous connaissez de la cuisine africaine, ils vont réfléchir avant de vous répondre. La cuisine africaine, elle est méconnue parce qu'effectivement, ceux qui devraient la porter ne la portent pas, Il y a beaucoup de cuisiniers africains. Vous allez les voir là tout à l'heure. Ils ouvrent et de plus en plus avec les nouvelles générations. Il y a beaucoup de restaurants africains qui ouvrent. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quand ils ouvrent, qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce qu'ils arrivent à faire en sorte que cette cuisine avance? Est-ce qu'ils arrivent à faire en sorte que cette cuisine ait une large diffusion au niveau du public? C'est-à-dire, moi, maintenant, j'entends certains jeunes me traiter de vieux. Effectivement, bah, je suis tout à fait d'accord qu'on me traite de vieux. Qu'est-ce que je fais? Je parle du mafé.
C'est un beau compliment.
Non, mais oui. Je parle du mafé. Le mafé est la chose la plus simple. Avant de faire un mafé revisité, proposer d'abord un mafé simple aux gens pour que les gens puissent manger la sauce de Sem.
Ok. Alors, Selma, justement, on parle de la cuisine africaine qui s'exporte. Une cuisine qui s'exporte, ce sont des produits qui s'exportent. Alors, parlez-nous un peu des produits phares que l'on retrouve dans les cuisines africaines, pour pas parler de la cuisine africaine.
Exactement. On peut pas parler de cuisine africaine sans parler de quelques produits qu'on devrait avoir en cuisine. À savoir, par exemple, le manioc. Le manioc est un arbuste vivace originaire de l'Amérique centrale. On consomme généralement ses racines qui sont très riches en glucides et très, très peu coûteux. Donc, du coup, c'est accessible à tout le monde. C'est aussi sans gluten, donc c'est l'allié des personnes qui mangent sans gluten. Mais aussi, on peut consommer les feuilles. Donc, dans le manioc, on peut distinguer deux variétés, le manioc amer et le manioc doux. Les tubercules sont également utilisés pour la préparation des boissons alcoolisées distillées. Aussi, il y a le gombo, c'est le gombo qui m'a beaucoup plus marqué. Parce que le gombo, j'ai découvert qu'on le retrouve en Afrique subsaharienne, on le retrouve en Grèce, on le retrouve en Afrique du Nord, on le trouve chez ma mère aussi, dans les cuisines de ma mère.
On mange notamment un gombo de bœuf au Babylone, qui m'a surpris la première fois, parce que le gombo, quand il est dans la cuisine africaine, il est cuit très longuement, donc ça fait une espèce de sauce
exactement, très
flasque, fileuse, gélatineuse,
voilà.
Mais qui est tellement bonne.
Et cet aspect gélatineux du gombo, c'est dû à la substance qu'on appelle, alors si j'y arrive, mucilagineuse, donc c'est la texture gélatineuse du gombo. Donc le gombo, c'est une grande herbe annuelle, donc on la retrouve toute l'année, à la tige irriguée pouvant atteindre 2,50 m de haut. Donc cette plante a été cultivée bizarrement en Égypte avant qu'elle soit importée en Europe par les Espagnols. Donc elle est, comme je disais, comme elle est présente toute l'année, donc elle est consommée dans la quasi-totalité de l'Afrique et tout au long de l'année.
Alors pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le gombo,
oui.
le gombo, en fait, c'est cette plante qui donne des fruits qui ressemblent à des mini courgettes un peu, des mini courgettes couleur aubergine un peu.
Oui, on pourrait dire sur un cornichon, je sais pas trop, mais conique. Alors le gombo est vraiment un des produits. Attention, les Japonais, c'est un produit assez intelligent, on peut le manger cru aussi.
Exactement.
Ça, je ne savais pas.
On peut le couper finement. Et avec une bonne vinaigrette relevée, avec un piment végétarien et un piment fort, c'est-à-dire un mélange de deux, c'est-à-dire on a un côté doux et un côté fort, oui.
Oui. Et alors, Alexandre, je voudrais pas prendre le risque qu'on n'ait pas le temps de citer les adresses de vos restaurants, parce qu'on arrive malheureusement au bout de l'émission. C'est passé très vite en votre compagnie, parce que c'était intéressant et passionnant. Faudrait faire une émission de 2 ou 3 heures ou en faire plusieurs sur la cuisine africaine, sur les cuisines africaines, parce que je pense qu'on avait encore beaucoup de choses à dire. Donc, on va rappeler les adresses de vos restaurants. Donc, Alexandre, le Rio dos Camarões.
Alors, Rio dos Camarões, au 55 rue Marceau, à Montreuil, c'est la maison mère, c'est mon restaurant depuis 25 ans, pratiquement aujourd'hui. Et le deuxième restaurant...
Camarões, c'est crevette, Camarón, qui a donné le nom du pays Cameroun.
Oui, le nom Cameroun vient de l'avatar de Camarões, crevette,
effectivement,
avec les Portugais.
Et le petit nouveau, alors, Moussa l'Africain, bistrot afropéen.
Afropéen, qui se trouve au 21 rue Pierre Lescot, à Paris. Dans le premier arrondissement, qui date depuis 3 mois.
D'accord. Et l'un de vos livres qui est toujours disponible à la vente, Cuisine actuelle de l'Afrique noire, aux éditions First. Ouais. Et Marie-Noël, alors, le Babylone, rappelez-nous l'adresse, s'il vous plaît.
34 rue Ticketon, dans le deuxième arrondissement.
Et là, par contre, c'est la nuit, 21h, 5h du matin.
20h, 6h, dernier client.
Et n'ayez pas peur, c'est pas fermé quand vous arrivez, il faut sonner.
Il faut sonner à droite.
Il faut sonner à droite.
Une fois. Comme à D'accord. la maison. Comme à la maison, on sonne une fois, on attend.
C'est parfait. Eh ben, merci d'avoir été avec nous, et puis on essaiera de refaire une émission complémentaire sur la cuisine africaine, parce que ça nous a donné faim et on va continuer à manger beaucoup de cuisine africaine. Merci d'avoir été avec nous sur Beurre FM.
Merci à toi.
Merci.
C'était Les Exploits du Chef avec Philippe Robichon et le Chef Voilà. Le Chef Voilà. Sur Beurre FM.